Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Alia Tovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Pascal Baudin. Dernier épisode de notre radiographie de l'Homo Covidus, ce lointain descendant de l'Homo Economicus. Cette semaine, nous avons esquissé certains de ses traits distinctifs. C'est un individu masqué et un travailleur inquiet. C'est aussi un épargnant frileux et un consommateur frugal. L'épidémie de Covid-19 a bouleversé nos comportements et ce sont ces transformations et leurs effets sur l'économie que nous examinons toute cette semaine. Avons-nous changé pour de bon, pour le meilleur ou pour le pire? L'Homo Covidus sera-t-il un être plus moral? Voilà quelques-unes des questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons imaginer l'Homo Economicus de demain en compagnie de Marie-Claire Villeval, directrice de recherche au CNRS, au groupe d'analyse et de théorie économique de l'Université de Lyon, avec nous à distance. À 14h50, le journal de l'Écho vous sera présenté par Xavier Martinet. Bonjour Marie-Claire Villeval.
Bonjour.
Alors pour bien comprendre en quoi le coronavirus a transformé nos comportements économiques, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler en quelques mots d'où vient le modèle théorique de l'Homo Economicus et ce qu'il désigne ?
Alors c'est une vision un peu schématique bien sûr hein, du raisonnement économique, mais dans la pensée néoclassique traditionnelle, standard, on considère que l'individu à un raisonnement économique rationnel qui consiste à comparer les coûts et les bénéfices des différentes options disponibles et de choisir en fonction de cette comparaison entre coûts et bénéfices. Et donc si les incitations en place dans l'économie poussent à faire un choix plus égoïste qu'un autre, eh bien on va aller choisir cette option plus égoïste, même si elle a des conséquences négatives pour autrui, simplement parce que c'est un calcul rationnel individuel. Donc on suppose que cet individu rationnel, c'est un point de référence, hein, cet individu rationnel compare des coûts, des bénéfices, pondère tout cela, traite toutes les informations qui lui arrivent et prend des décisions selon un calcul bien compris et bien établi. Et c'est l'origine du modèle.
Et c'est un modèle théorique qui a prouvé son utilité, qui a été assez efficace, même si on va le voir, il a été ensuite assez contesté.
Alors, c'est un guide important. On sait bien que, évidemment, les individus ont des préférences sociales, qu'ils ont des informations limitées, etc. Ça reste un cadre de référence. Si l'individu est rationnel, voilà comment il devrait prendre ses décisions. Après, on peut s'intéresser à l'origine des déviations par rapport à ce calcul rationnel.
Et alors justement, c'est ce qui a intéressé l'économie comportementale, cette idée selon laquelle finalement l'individu ne serait pas si rationnel que ça, il y aurait un certain nombre de biais.
Alors, l'économie comportementale va surtout consister à incorporer dans le raisonnement économique des savoirs qui nous viennent de la psychologie ou des sciences cognitives et qui vont permettre de proposer de nouveaux modèles théoriques de raisonnement économique et de la prise de décision. Et donc, l'économie comportementale va modifier trois grandes dimensions hein, par rapport à l'économie classique. C'est tout d'abord la vision des préférences des individus. Ensuite, c'est leurs croyances et comment ils traitent l'information. Et puis enfin, c'est comment ils prennent leurs décisions sur la base de ces préférences et des informations disponibles. Et on va admettre que sur ces trois volets, le modèle standard classique connaît des limites très importantes. Pour prendre un exemple sur les préférences, dans le modèle classique, on suppose que l'Homo Economicus a des préférences qu'il connaît très bien, qui sont stables, qui sont des préférences individuelles. En économie comportementale, on va réviser considérablement cette vision des préférences. Tout d'abord, on admet qu'elles ne sont pas nécessairement stables. Elles ne sont pas très bien connues par les individus. On ne sait pas toujours si on préfère une option A à une option B. Et on peut changer d'avis dans le temps. Et par ailleurs, on maximise pas que son utilité personnelle. C'est-à-dire que on rentre dans notre fonction d'utilité les conséquences de nos choix sur autrui. Mmh. Nos choix dépendent de ce que l'on fait aux autres. Donc on a déjà, voilà, cette vision des préférences est complètement différente.
Alors on va revenir sur les choix et ce qui motive les choix des individus. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, Marie-Claire Vidal, c'est qu'avec l'épidémie de coronavirus, il y a des changements considérables qu'on a pu observer sur les comportements sociaux.
Alors ça, c'est un domaine vraiment très très passionnant. En fait, on voit qu'il y a des changements considérables de comportement. En revanche, on a suivi un groupe de participants à des expériences que nous avons organisées chaque semaine. Donc on les a suivis pendant 3 mois pour voir si leurs préférences se modifiaient, si leurs préférences sociales se modifiaient, et si leurs croyances vis-à-vis des normes sociales se modifiaient également. Et sur ces 3 domaines, on voit des changements très très différents. C'est-à-dire que nos comportements, clairement, ont changé par la force des choses. Nous avons appris à nous distancier socialement, nous avons appris des gestes barrières, nous avons découvert le télétravail, nous avons pu changer d'avis sur le télétravail, nous avons révisé nos choix en matière de résidence, nous avons pris conscience des dépendances internationales sur le plan économique. Donc clairement, nos comportements et nos intentions ont changé. En revanche, du côté des préférences, on s'attendait, nous, à trouver un changement de préférence sociale avec le confinement. Soit dans le sens de plus d'égoïsme, plus d'individualisme à cause du repli sur soi, soit dans le sens d'une plus grande prosocialité, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des professions qui étaient exposées et qui travaillaient pour nous, malgré les dangers. Donc peut-être que ça pouvait générer plus de prosocialité, plus de confiance dans les autres.
Et en réalité, cela n'a pas tant changé que cela ?
Eh bien, exactement. On a découvert que finalement, les préférences sociales avaient très peu changé. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui est égoïste avant le confinement, il ne va pas devenir plus prosocial après. Inversement, quelqu'un qui était déjà généreux, ouvert aux autres auparavant, n'est pas devenu plus méfiant ou plus égoïste pendant le confinement et après le confinement. Et ça peut s'expliquer parce que finalement, ces préférences, elles résultent de l'éducation, de notre expérience. Donc, ça met beaucoup de temps à se transformer, les préférences.
Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut modifier les comportements? Puisque vous l'avez dit, nous avons changé nos comportements. Par exemple, on ne se serre plus la main, on ne se fait plus la bise, alors que ce sont des habitudes qui avaient été acquises et qui ont été pratiquées depuis des siècles et qui, donc, aujourd'hui, ont disparu. Comment modifier les comportements? C'est la loi qui a ce pouvoir. Elle peut modifier les normes très rapidement?
Alors, je pense que c'est un des enseignements majeurs de la période récente. C'est le changement rapide de normes sociales. D'habitude, on considère que les normes sociales, c'est quelque chose qui est assez rigide, qui met beaucoup de temps à changer. Alors qu'en fait, on a vu avec les mesures de confinement, les lois, les réglementations sur le confinement, que ces lois avaient eu un effet immédiat sur la pratique concrète de distanciation sociale, non pas parce qu'il y avait peur du gendarme et non pas parce qu'il y avait peur du virus, enfin, pas seulement pour ces raisons-là, mais aussi parce qu'on a changé notre vision sur ce qu'il est approprié ou inapproprié de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que on attend du jugement des autres? Quelle est, à notre avis, la pensée de la majorité de la population sur ce qui est approprié ou inapproprié de faire? Et effectivement, on l'a vu dans notre étude, les normes sociales ont changé très très vite avec l'introduction de la loi sur le confinement et avec la levée de la loi sur le confinement. Donc les normes peuvent changer très vite. Ça, on l'avait vu déjà avec la loi anti-tabac dans les lieux publics. On avait déjà été surpris de voir à quelle vitesse des normes bien ancrées dans la population sur « je fume et j'ai le droit de faire ça n'importe où » à un changement complet de pratique, et pas seulement parce qu'on risquait une amende, aussi parce qu'on a peur du regard négatif des autres.
Les normes sociales ont changé et ceux qui dévient de ces normes font l'objet d'une réprobation. Ainsi, après avoir emmené ses enfants à la plage pendant le confinement, le ministre de la Santé néo-zélandais David Clark a dû démissionner. On l'écoute.
Ce matin, j'ai formellement présenté ma démission du poste de ministre de la Santé à la Première ministre qui l'a accepté. Servir en tant que ministre de la Santé a été un grand honneur, particulièrement durant ces derniers mois exceptionnels. Ce n'est pas un secret, la santé est un portefeuille important. J'ai tout donné. Mais c'était devenu de plus en plus clair pour moi que continuer à ce poste détournait l'attention de la réponse globale du gouvernement à la Covid-19 et à la pandémie mondiale.
Marie-Claire Villeval, c'est notamment la crainte du jugement des autres qui nous incite à respecter les normes.
Ben, c'est un élément essentiel, effectivement, de la gouvernance des biens communs. Ça. On est sensible non seulement à ce que les autres font, non seulement à ce que les autres disent, mais également à la façon dont les autres nous jugent. Et donc, beaucoup de nos comportements sont liés à nos croyances sur les attentes d'autrui à notre égard. Autrement dit, on forme des croyances sur les croyances des autres. Et l'être humain, en général, n'aime pas décevoir les attentes d'autrui. Autrement dit, on culpabilise un peu si on déçoit les attentes des autres. Et ça, c'est une motivation importante qui guide nos comportements sociaux, même si, de façon égoïste, on a envie de s'abstraire un petit peu des règles sociales. On prend parfois conscience qu'on a dépassé des limites et que autrui ne vous pardonne pas ce comportement inapproprié. Donc on est bien dans le domaine des normes sociales et le comportement économique, on ne peut pas bien le comprendre si on ne mesure pas le poids des normes sociales dans la formation de nos choix de comportement.
Et puis, on a parlé de la loi qui peut favoriser tel ou tel comportement, mais il y a aussi le nudge que l'on peut traduire par incitation douce. Je vous propose d'écouter les explications du directeur général délégué de la Nudge Unit chez BVA.
L'idée, c'est comment je peux organiser l'environnement de choix des individus pour les aider à atteindre leurs propres objectifs. Si je veux maigrir, si j'ai chez moi des bols qui sont très gros, quand je mets 30 grammes de céréales à l'intérieur, les 30 grammes de céréales me paraissent tout petits à l'intérieur du bol et c'est plutôt déprimant. Si j'ai au contraire chez moi des bols qui sont tout petits et sur lesquels quand je mets 30 grammes, le bol a l'air plein, je vais avoir une impression de satiété beaucoup plus forte et je vais consommer moins de céréales. Donc l'esprit du nudge, c'est ça, c'est comment je m'organise, comment j'organise mon environnement ou comment d'autres personnes peuvent organiser mon environnement pour m'aider à atteindre mes objectifs. On va chercher à faire en sorte que les gens passent d'une intention à une action.
Le nudge est une invention qui est relativement récente, Marie-Claire Villeval, mais on peut dire qu'il a déjà fait ses preuves.
Alors, je crois que les gens de marketing souriraient en entendant parler d'innovations récentes, parce que je pense que dans le domaine du marketing, on utilise des nudges sans les appeler comme ça, mais on utilise ce principe depuis bien longtemps.
C'est l'État qui l'utilise plus récemment.
Oui, exactement. C'est devenu plus un concept utilisé en économie, en intervention publique, quand les finances publiques permettent plus toujours d'avoir les ressources financières nécessaires. Donc on essaye de trouver des solutions qui consistent à ne pas changer les incitations monétaires, mais à changer la façon de présenter les choix sans pour autant tromper les individus. L'idée, c'est d'amener les gens à faire des choix qui sont dans leur propre intérêt, en leur présentant les options de façon différente. L'exemple qui vous est donné sur la taille des bols, on ne change pas votre préférence pour la nourriture. On vous aide simplement à vous créer des contraintes par vous-même et de façon volontaire pour orienter vos décisions. Et donc ça marche effectivement. On a vu que en exploitant un peu tous les biais cognitifs des individus, on peut aider les gens à mieux épargner. On peut favoriser les dons d'organes, par exemple. On peut pousser les gens à ne pas oublier les rendez-vous qu'ils prennent. Tout ça en jouant sur des rappels sur le téléphone, des choix par défaut, l'exemple des bols à la cantine. Tout ça peut fonctionner. La question, c'est est-ce que ça fonctionne durablement ? C'est-à-dire, est-ce que l'individu est naïf au point de ne pas s'habituer à ces nudges ? Donc, quel est l'effet durable de ces nudges ? On le connaît encore mal. Et par ailleurs, toute la question est relative aux nudges sociaux ou aux nudges normatifs. Si on reprend la question du Covid, les nudges normatifs, c'est quels messages peuvent être diffusés aux citoyens pour leur rappeler leurs devoirs sociaux en matière de protection, de port du masque, de gestes barrières. Alors pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas ? Ça peut fonctionner. Le principe qui fait que ça fonctionne, c'est parce qu'on va donner une information aux gens sur ce que la majorité considère comme approprié ou inapproprié. On manifeste une approbation sociale d'un certain comportement. Parce qu'on n'aime pas être mal jugé, on a vu l'exemple du ministre néo-zélandais, on n'aime pas être contesté par les autres. Donc l'avantage du nudge, c'est qu'il va homogénéiser, coordonner les croyances des individus sur ce qui est attendu d'eux. Donc ça va guider les comportements et ça va rappeler aux gens qu'ils sont tous interdépendants. Donc tout ça fait que ça peut marcher, effectivement.
Mais l'un des enjeux, effectivement, vous l'avez souligné, Marie-Claire Villeval, c'est que qu'il soit provoqué par la loi ou par le nudge, il faut que ces comportements soient modifiés de façon durable. Et là, il y a un défi important.
Il y a un défi important et puis surtout, les messages, les nudges, ne peuvent ne pas fonctionner, en particulier s'il y a une contradiction entre deux types de normes sociales. Il y a les normes sociales qui sont ce qu'on appelle les normes injonctives, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et ce qu'il est inapproprié de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est les normes injonctives, ça vous dit ce que les autres attendent de vous. Puis il y a les normes sociales qui sont les normes empiriques, ce que la majorité des gens font. Alors le nudge social, le nudge normatif, typiquement, il peut marcher s'il y a une cohérence entre la norme injonctive et la norme empirique. Mais il ne marche pas s'il y a une contradiction entre les deux. C'est-à-dire, si le nudge insiste sur la norme, sur ce qu'il faut faire, est-ce qu'il est inapproprié de faire ou de ne pas faire, mais que vous voyez que la majorité des gens, de toute façon, fait autre chose, vous aurez beau utiliser un nudge social, ça ne fonctionnera pas. Donc l'élément essentiel, c'est d'arriver à faire prendre conscience aux individus de leurs interdépendances et des externalités des comportements individuels sur les autres.
Et il y a un certain nombre de stratégies pour provoquer le comportement que l'on souhaite provoquer, surtout quand on est la puissance publique. Hier, sur France Inter, le Premier ministre Jean Castex a eu recours à la stratégie de la gratification.
Mais, c'est vrai qu'il faut que tout le monde se sente concerné par la lutte contre l'épidémie. Moi, je trouve quand même que depuis plusieurs mois, prenons un peu de champ, quand même, les Français ont fait face. Vous savez, ça a quand même été un choc totalement inattendu, auquel on n'était pas forcément préparé, ni techniquement, ni peut-être dans les esprits. Bon, je trouve que le peuple français a fait face, bien entendu les services publics, mais l'ensemble du peuple français.
On peut dire, Marie-Claire Villeval, à l'écoute de ces propos de Jean Castex, que de la même façon que les individus fuient les jugements, ils recherchent l'approbation.
Oui, ça c'est un élément essentiel, effectivement. On est des petites bêtes sensibles. Donc on a besoin d'être renforcés dans nos bonnes actions, surtout si elles nous sont coûteuses. Donc on a besoin d'avoir effectivement des échos, des actions coûteuses, bonnes pour la communauté. La difficulté serait effectivement d'avoir une politique publique ou des messages publics qui seraient uniquement sur le registre de la sanction, de la menace, de la punition, parce qu'on est déjà dans un contexte anxiogène, où les gens ont peur, où ils sont dans une grande incertitude, à la fois quant à la perspective de garder leur emploi, de éventuellement repartir vers du confinement. Donc cette incertitude, elle a un coût. Et donc il est important de montrer aussi, surtout de la part de l'État, hein, qui est censé nous protéger, qu'on va dans la bonne direction. C'est-à-dire que ces efforts individuels, ils ont un effet positif collectif. Donc c'est important, effectivement, de jouer sur la récompense et pas seulement sur la menace.
Mais alors, si on peut changer les comportements dans le cas de la crise du coronavirus, est-ce qu'on peut également le faire pour des enjeux à plus long terme, comme les enjeux environnementaux, par exemple ?
Mais exactement de la même manière. On est dans un cas où on doit prendre conscience bien davantage de nos interdépendances. Alors, dans le domaine environnemental, c'est encore plus compliqué parce que ça peut être l'interdépendance entre nous-mêmes et nos futures générations. Donc là, on a une difficulté additionnelle, c'est la prise en compte du futur dans nos choix économiques immédiats. Or, l'individu a une tendance assez forte à procrastiner, c'est-à-dire à avoir tendance à repousser au lendemain les actions dont le coût est immédiat et les bénéfices dans le futur. On est prêt à faire un régime avant l'été, on est prêt à décider d'arrêter de fumer à Noël, mais on a envie de remettre au lendemain, parce qu'on ne va pas commencer un samedi à faire ça, on va attendre le lundi. Puis le lundi... Lundi, c'est le début de la semaine. Je commencerai la semaine prochaine. Vous voyez, on a toujours tendance à repousser à plus tard les opérations qui nous sont coûteuses dans l'immédiat et avec un bénéfice non certain et dans le futur.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter justement contre cette tendance ?
Eh ben, en parler déjà. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup à faire en matière de communication. Expliquer que. Nous vivons dans un monde d'interdépendance. Et je crois que la crise du coronavirus a contribué, contribue beaucoup à faire prendre conscience de ces interdépendances, à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan économique, interdépendance au niveau international sur nos approvisionnements. On a pris conscience de beaucoup de choses. Je pense qu'on a, c'était une belle leçon d'économie publique ces derniers mois. Et donc, voilà, c'est évidemment des actions de longue durée. C'est pas les nudges qui vont être suffisantes pour traiter les questions de l'environnement.
Il faut jouer peut-être sur les deux tableaux, Marie-Claire Villeval, à la fois sur les institutions et puis sur les comportements individuels. Le vélo en est peut-être un bon exemple.
Il faut jouer à la fois sur les institutions formelles, donc les lois, les règlements, pour créer des nouvelles incitations. Et puis... Donc les nudges, la communication, la façon de présenter les choix. Mais on a besoin des deux, et les deux s'interinfluencent de façon claire. Hein. En matière de lois, de règles, d'incitation, on sait bien que les individus réagissent aux incitations. On sait bien que ces incitations, elles changent les coûts monétaires et les bénéfices monétaires. Donc on réagit à ça bien naturellement. Ça, c'est notre part homo economicus. On est sensible aux arguments monétaires, bien évidemment.
Donc l'incitation financière de 50 euros, par exemple, pour faire éventuellement réparer son vélo, c'est une bonne initiative, c'est susceptible de modifier les comportements des gens. C'est ce qu'on a d'ailleurs déjà constaté au mois de mai. Il y a énormément de gens qui se sont mis à prendre leur vélo, qui ne le faisaient pas avant. Après, il va falloir voir si ça va durer.
C'est une très bonne initiative. Ça ne coûte pas très très cher. Ça donne le coup de pouce financier. Alors là, pour le coup, le nudge, il est monétaire, d'une certaine manière. On met un petit coup de pouce financier à l'opération, en se disant que ça va changer un peu les habitudes. Ça va créer des habitudes. Et il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été menés en économie comportementale ces dernières années pour voir comment on peut, avec un petit coup de pouce monétaire au départ, changer les habitudes. Alors ça s'est fait en donnant des petites primes pour pousser les gens à s'inscrire dans un club de gym, par exemple. Ça s'est fait pour aider des élèves à faire leurs devoirs, ou être à l'heure à l'école, pas être absent. Ça s'est fait pour pousser des salariés à prendre les transports en commun plutôt que leur voiture. Donc ça peut fonctionner. Finalement, non pas tant pour le petit coup de pouce monétaire, mais parce qu'on donne une ligne sur une action intéressante. C'est-à-dire qu'on change un peu les croyances des gens, on coordonne des croyances, on rend plus lisible une orientation d'intervention de politique publique. Et donc ça a un effet très très important sur sur les gens, parce qu'ils se posent des questions qu'ils ne se posaient pas. La plupart des gens, avant, ne se posaient pas la question de savoir s'ils allaient prendre le vélo, en dehors de leurs loisirs, j'entends. Comme le télétravail, hein, on ne se posait pas, on était contre ou pour le télétravail, mais si on était contre, on ne se posait pas la question pour soi. Et pendant cette crise sanitaire, on a été amené finalement à changer notre façon de voir les choses. On s'est posé des questions qu'on évitait auparavant.
Et pour changer ces comportements, Marie-Claire Villeval, est-ce qu'il ne faut pas réintroduire cette notion de bien commun qui intéresse beaucoup l'économie comportementale ? Est-ce que cela peut avoir un impact ?
Alors, effectivement, c'est tout le problème, à la fois en matière d'environnement et en matière de gestion sanitaire. Comment préserver ces biens communs et comment les produire et comment les préserver. Autrement dit, comment arriver à pousser les gens à coopérer davantage. Parce que un bien commun, c'est un dilemme social, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre mon intérêt individuel, égoïste, et l'intérêt collectif. Prenons l'exemple du masque. Mon intérêt individuel, c'est peut-être pas de porter le masque parce que c'est pénible, ça me tient chaud, ça me gratte le nez, on comprend mal ce que je dis, je vois pas les émotions des autres. Donc individuellement, il y a un coût. Par contre, il y a une protection collective. En portant mon masque, je protège les autres. Je me protège aussi, mais surtout je protège les autres. Donc il y a une contradiction entre mon intérêt personnel égoïste et l'intérêt collectif. Et donc, on peut être tenté de se dire, bon, moi, si je porte pas mon masque, j'économise ce coût personnel. Évidemment, j'espère que les autres vont porter leur masque. Mais progressivement, on arrive à avoir ce qu'on appelle la coopération conditionnelle. C'est-à-dire que même si je suis de bonne volonté au départ, si je vois de plus en plus de personnes qui ne portent pas le masque, je vais me dire que, bah, après tout, moi non plus, je vais pas le porter. Donc, cette coopération conditionnelle a tendance à décliner au cours du temps. Et petit à petit, eh bien, il y a une dégradation. Et c'est tout ce problème de bien commun. On arrive si on traite ce bien commun comme un bien privé, on arrive à détruire le bien commun. Et la santé ou l'appareil de santé, l'hôpital, bah, c'est un bien commun, finalement. Le risque, c'est d'arriver à ce que Hardin appelait la tragédie des communs.
Alors justement, vous parlez de Garrett Hardin, le biologiste américain qui a écrit ce célèbre article publié en 1968, La tragédie des communs. Pour lui, nous ne sommes pas capables de gérer collectivement des biens mis en commun. On l'écoute lors d'une interview réalisée en 1999.
If you have, for example, a hunting area.
Si vous avez par exemple une zone de chasse, c'est un bien commun. Chaque personne va essayer d'avoir son propre cerf provenant de ce pâturage commun et chacun va tirer autant qu'il en aura envie et autant qu'il le sentira sans se préoccuper des autres personnes. Et si tout le monde adopte cette attitude, ils vont tous finir par en souffrir. C'est pourquoi ils vont s'entendre sur une sorte de gestion, de gouvernement. Mais malheureusement, on insiste trop souvent pour laisser ces biens communs non gérés et nous finissons par avoir de plus en plus de problèmes.
Pour Garrett Hardin, la tragédie des communs est inéluctable, mais c'est une thèse qui a été remise en question par la politiste Elinor Ostrom, dont les travaux ont été couronnés par le prix Nobel d'économie. Elle a montré au contraire que les communs pouvaient être gérés de façon collective, Marie-Claire Villeval.
Alors, effectivement, c'était le grand apport de Elinor Ostrom qui a montré que beaucoup de communautés s'organisent pour gérer les ressources naturelles en commun. Donc, les groupes se mettent en place des modes de gouvernance communautaire pour gérer ces biens communs. Donc, pour Hardin, la solution, c'est l'autorité au niveau le plus élevé. Pour Ostrom, c'est non, regardez, elle l'a étudié à travers l'observation de communautés dans des continents différents, des sociétés à des niveaux de développement différents, et elle a montré que les communautés mettent en place tout un tas de systèmes d'obligations réciproques qui permettent de discipliner les individus. Alors, à travers des systèmes de récompenses mutuelles, à travers la pression des pairs, les blâmes, si on s'écarte de la règle commune, à travers l'internalisation des normes sociales dont on a déjà parlé, à travers la communication. Donc les groupes peuvent arriver à gérer des ressources naturelles sans nécessairement avoir besoin d'un État centralisateur qui viendrait imposer des contraintes absolues aux individus.
La crise du coronavirus rendra-t-elle les individus plus altruistes ? C'est notre sujet aujourd'hui. On continue à parler dans un instant.
France Culture, Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way.
Man in the Mirror de Michael Jackson sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Marie-Claire Villeval et nous parlons de cet homo covidus apparu avec la crise épidémique. Un individu contraint de changer ses habitudes et son comportement dans les lieux publics fermés, dans la rue et au bureau où le masque sera obligatoire à partir du 1er septembre. Alors, qu'est-ce qui fait que certains respectent les règles sanitaires et d'autres non ? Vous distinguez trois profils, Marie-Claire Villeval, qui vont du plus altruiste au plus égoïste.
Alors, effectivement, l'agent économique est multiple et divers et hétérogène. Et je pense que les économistes ont fait des gros progrès dans les dernières décennies sur la compréhension de cette hétérogénéité des préférences individuelles. Donc, en matière de préférences sociales, on voit qu'effectivement, il y a deux extrêmes. Il y a les personnes qui correspondent en gros au profil de l'homo economicus, hein, c'est-à-dire leur fonction d'utilité n'intègre qu'eux-mêmes. À l'opposé, on va avoir des altruistes qui, eux, mettent en avant systématiquement le bien-être des autres par rapport à leur propre intérêt personnel. Et puis il y a la masse, dans laquelle on se reconnaîtra assez aisément, des individus qui sont conditionnels. C'est-à-dire que selon les opportunités, selon le contexte, selon le comportement des autres, on va se comporter, on va accorder un poids à autrui plus ou moins important dans notre fonction d'utilité.
Et effectivement, on va se comporter de façon mimétique souvent, et cela alors même que les coûts et les bénéfices moraux de nos comportements ne sont pas les mêmes partout et pour tout le monde. C'est plus dur de respecter le confinement, par exemple, quand on vit à 3 dans un 30 mètres carrés.
C'est toute la difficulté également de gestion des biens communs. La solution d'Elinor Ostrom, dont on a parlé il y a quelques minutes, on comprend bien pourquoi elle fonctionne dans des petites communautés, mais dans des communautés, dans des sociétés de taille beaucoup plus importante, où les relations sont beaucoup plus atomisées, où les bénéfices et les coûts sont différents, il est beaucoup plus difficile de produire des modes de gouvernance qui fonctionne sans autorité centralisée, sans mesure centralisée, parce que évidemment tout le monde ne retire pas le même bénéfice d'une mesure de protection sanitaire, par exemple. Les coûts de respecter les gestes barrières sont différents d'un groupe à l'autre, et donc forcément il est plus difficile de produire de la coopération quand tout le monde ne bénéficie pas des mêmes bénéfices, où tout le monde ne subit pas les mêmes coûts.
Et alors, qu'est-ce qui nous pousse en tant qu'individu à prendre telle ou telle décision lorsque nous faisons face à un dilemme moral? Dans le film des frères Dardenne, Deux jours, une nuit, on en parlait hier, les employés d'une entreprise de panneaux solaires sont confrontés au dilemme suivant: soit ils acceptent une prime de 1000 euros, soit leur collègue Sandra, qu'ils ont remplacé collectivement pendant son congé maladie, est licenciée. Or, à la toute fin du film, Sandra, incarnée par Marion Cotillard, est confrontée à son tour à un dilemme.
Entrez, Madame Villard. Bonjour.
Bonjour.
Asseyez-vous, prenez place. Vous avez réussi à convaincre la moitié du personnel à renoncer à sa prime. Bravo. Évidemment, la moitié, c'est pas la majorité. Mais dans le souci d'apaiser toute rancœur au sein du personnel, j'ai décidé d'octroyer la prime et de vous réintégrer. Je peux pas vous rembaucher tout de suite, parce que pendant votre congé maladie, j'ai constaté avec Jean-Marc que le travail pouvait se faire à 16 au lieu de 17. Fin septembre, je ne renouvellerai pas un contrat à durée déterminée, et vous pourrez revenir. En attendant, vous serez 2 mois en chômage technique. Voilà. C'est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Vous restez avec nous.
Je peux pas prendre la place de quelqu'un qui sera licencié pour que je puisse revenir.
C'est pas licencié. Simplement, son contrat sera pas renouvelé.
C'est la même chose.
Non.
Au revoir, Monsieur Dumont.
Si l'héroïne du film, Sandra, choisit finalement de claquer la porte et de choisir la voie la plus difficile pour elle, donc celle du licenciement, c'est pour rester en cohérence avec elle-même. Pendant tout le film, elle a essayé de convaincre ses collègues de renoncer à leur prime, donc de ne pas suivre leur intérêt égoïste pour qu'elle-même ne soit pas licenciée. Qu'est-ce que vous inspire cet extrait, Marie-Claire Villeval?
C'est un bel extrait qui permet de parler de beaucoup de choses. La complexité de ce genre de situation, c'est bien l'opposition entre efficience et égalité. Alors, efficience, pourquoi ? Bah parce que si on veut arriver à produire le maximum, le meilleur, il faut que tout le monde donne à fond. Il faut que tout le monde s'y mette, tout le monde donne à fond. Le problème, c'est que ça, c'est pas très égalitaire. C'est-à-dire que forcément, il y en a qui vont bénéficier ou qui vont subir plus que d'autres. Et donc, si on va privilégier plutôt l'égalité, on va produire un résultat qui va être moins efficient. Et donc le problème, c'est comment une société avec des différences, ce qui est le cas de toutes nos sociétés en ce moment, hein, quand on a des différences, il y a forcément ce compromis entre efficacité et égalité qu'il faut gérer. Comment y arriver ? Ça appelle évidemment des tas de choses, cet exemple que vous nous avez donné. Le sens de la réciprocité. Si on bénéficie d'un secours, d'une aide, il faut soi-même être capable de pouvoir rendre et ne pas uniquement bénéficier. Il faut pouvoir rendre également. Donc ça soulève la question des préférences sociales à nouveau, le rôle de la réciprocité. Ça soulève la question du compromis entre des groupes qui n'ont pas les mêmes intérêts. Comment on arrive à faire dialoguer des groupes sociaux pour quand même avancer ensemble malgré ces différences d'intérêts. Donc la qualité du dialogue, la qualité de la communication entre groupes divergents est extrêmement importante. Ça lève la question également du leadership. Pour gérer les biens communs, on a besoin de bons exemples. On a besoin de leaders qui nous emmènent dans la bonne direction. Et puis, il y a un quatrième point, je pense, c'est la confiance dans les institutions. On arrive d'autant mieux à gérer la diversité, l'hétérogénéité, que l'on a confiance dans les institutions. Donc, des pays qui ont des institutions fortes, c'est-à-dire qu'on a confiance dans sa police, dans sa justice, dans la démocratie, sont des pays qui sont plus capables d'arriver à gérer l'hétérogénéité.
Et alors, on l'a dit, les individus sont tiraillés entre leur désir égoïste, la plupart des individus, la masse, comme vous disiez, Marie-Claire Villeval, tiraillés entre leur désir égoïste et leur volonté d'être perçue comme une personne moralement bonne, d'où la mise en place de stratégies pour continuer à suivre ses désirs tout en préservant son image vertueuse.
Alors ça, c'est un domaine très riche. Que les psychologues ont exploré depuis longtemps, mais qui arrive maintenant chez les économistes. La panoplie mise en œuvre par les individus pour bénéficier de petits avantages égoïstes tout en gardant une image morale de belle personne est tout simplement impressionnante. Ce sont toutes les stratégies finalement qui relèvent de l'hypocrisie morale. Qu'est-ce qu'on fait finalement pour se montrer égoïste assez régulièrement tout en ayant bonne conscience? Il y a trois grandes catégories de stratégies. On manipule nos croyances, on fait du désengagement moral, et puis on utilise des petites histoires, on utilise des récits pour se persuader moralement. Alors, peut-être pour illustrer
Oui, vous donnez notamment un exemple intéressant. Vous dites qu'il y a une étude suédoise qui explique qu'un certain nombre d'individus ont tendance à moins lire les journaux quand les journaux parlent de la question migratoire et que ça leur donne mauvaise conscience.
Alors effectivement, il y a une étude récente qui regarde le nombre de clics sur les articles de presse en fonction du taux d'arrivée d'immigrants dans la commune. Et ce qui ressort de cette étude est que plus il y a de nouveaux migrants qui arrivent dans une commune, et moins les habitants de la commune consultent la presse sur les phénomènes migratoires. Et l'effet est encore plus fort quand l'article de presse a une tonalité empathique. Donc effectivement, on traite l'information de façon totalement biaisée pour éviter les informations qui nous gênent.
Et ça explique aussi le succès des fausses informations. On préfère croire ce qui nous arrange, même si ce n'est pas la réalité. Vous parlez d'un marché de l'ignorance.
Ben oui, c'est ce qui est un petit peu sidérant, c'est que l'homo economicus, dont on est parti initialement, au départ de l'émission, est un être qui cherche à emmagasiner toute l'information disponible. Au contraire, on voit maintenant toutes ces stratégies qui consistent à échanger des non-informations, voire des fausses informations, sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que certains individus, effectivement, cherchent à éviter l'information, il y a une demande d'ignorance, parce que ça donne une marge de manœuvre morale, mais en face, on a également une offre d'ignorance. C'est-à-dire qu'en gros, les conseillers peuvent transmettre de l'ignorance au lieu de transmettre de l'information sur les externalités négatives de nos choix.
Et l'ignorance, c'est bien utile, par exemple, on peut se dire, puisque je ne suis pas sûr que mes dons seront bien redistribués aux plus démunis et pas volés par l'association à laquelle éventuellement je les donnerai, et bien je préfère ne pas donner.
Exactement, hein. Si on mesure de façon objective, très froide, l'attitude face au risque des individus, face à un risque purement objectif, purement d'État, hein, et qu'on leur donne la possibilité de faire un don qui lui-même comporte une partie risquée, on voit qu'ils sont beaucoup plus averses au risque en matière de générosité. Autrement dit, ils deviennent beaucoup plus averses au risque quand l'incertitude porte sur la transmission d'un don. Ce qui signifie très simplement, c'est qu'on utilise le risque ou l'incertitude comme excuse pour se montrer plus égoïste.
Et ça, il y a un certain nombre d'expériences en laboratoire qui ont permis de mettre en évidence cette préférence pour l'ignorance. C'est un sujet essentiel de l'économie comportementale.
Oui, parce que c'est effectivement très, très troublant de voir comment l'individu va éviter l'information. Alors, il peut s'agir de, par exemple, de jeux, ce qu'on appelle les jeux de dictateurs. On donne au sujet une somme à partager entre eux-mêmes et un inconnu dans le laboratoire. Et on observe que le comportement devient beaucoup plus égoïste quand le choix de l'option qui nous arrange est associé à une incertitude sur le montant donné à l'autre. La même personne va se montrer beaucoup plus égoïste quand il y a une incertitude sur les conséquences pour autrui de son choix de partage. Et ça s'explique parce qu'on est, on préfère gagner plus que moins, mais aussi parce que l'ignorance réduit le risque de punition par des tierces parties. Un tiers qui va éventuellement avoir la possibilité de punir un choix égoïste va beaucoup moins punir ou punir moins sévèrement quand ce choix égoïste a été fait dans un contexte d'incertitude. Donc on peut jouer un peu sur les deux tableaux. Je ne cherche pas à obtenir l'information, même si on me donne la possibilité de lever l'incertitude, et je fais un choix égoïste. Et par ailleurs, je sais que je risque moins d'être puni.
Autre exemple. Je vous laisse finir.
Et cette incertitude, on peut l'utiliser aussi par rapport à soi, en manipulant ses souvenirs. C'est un thème sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est la mémoire sélective. Parce qu'on arrive à créer une incertitude sur son passé. On arrive à oublier davantage nos choix égoïstes que nos choix généreux. On arrive à oublier davantage nos évaluations négatives que nos évaluations positives. On oublie davantage nos mensonges que nos vérités, etc. Et cette capacité de l'être humain à bricoler sa mémoire, voire à se créer des faux souvenirs, c'est une autre façon de traiter de façon biaisée l'information, à la fois pour des raisons affectives et des raisons instrumentales. Raisons affectives, on veut garder une bonne image sur soi, donc c'est plus orienté vers le passé. Et raisons instrumentales, c'est plus orienté vers le futur, pour avoir le courage d'entreprendre quelque chose de difficile. Je vais ne garder en mémoire ou ne rappeler à ma mémoire que mes succès passés, parce que ça m'aide à être motivé pour le futur.
Et cela, alors même que les économistes, écrivez-vous, parlent de comptabilité de la conscience, c'est-à-dire on s'arrange avec soi-même, on se rappelle d'une bonne action, alors on se dit que peut-être on n'a pas besoin d'en faire une bonne à ce moment-là, et inversement. Je voudrais vous faire entendre un dernier exemple. Au mois de juillet, une rave party a été organisée dans la Nièvre. Plusieurs milliers de festivaliers se sont rassemblés dans un champ, comme si l'épidémie avait complètement disparu.
On n'y pense pas, en fait. On est tellement bien, on a tellement attendu ça que ça nous passe au-dessus de la tête, quoi. Ça nous passe carrément au-dessus de la tête.
Qu'on soit clair, les gestes barrières, personne les respecte. Et personne les respecte d'ailleurs. Sur les plages, c'est pas mieux. Dans le sud de la France, c'est pas mieux. Dans les vieux centres-villes.
On garde quand même des barrières de sécurité avec les gens qu'on connaît pas. On évite de partager des bouteilles ou des verres. Ou... Après, les masques, voilà, c'est...
C'est compliqué.
On pourrait pas avec ce temps-là. Trop de chaleur, tout ça. C'est trop compliqué de porter des masques.
Des témoignages recueillis par France 3 qui illustrent bien, selon vous, Marie-Claire Villeval, cette tentative de justification lorsqu'on s'écarte de la règle.
Oui, alors il y a trois choses dans cet exemple. Il y a l'importance des effets de pair. On est très influencé par ce que font les autres et les autres nous permettent d'avoir une bonne conscience. Deuxièmement, il y a la question de la proximité. On pense que on est proche des autres et que quelqu'un qui est proche ne peut pas vous faire du mal, donc il n'y a pas de risque. Et troisièmement, c'est effectivement un bel exemple d'équilibrage moral. Quand on a fait une bonne action, on peut se permettre de se relâcher. C'est ce qu'on appelle la licence morale. Inversement, quand on a fait une mauvaise action, on a besoin de se racheter en faisant quelque chose de bien. C'est le nettoyage moral. Et cette comptabilité de la conscience, je pense qu'elle a joué, et elle joue en ce moment un rôle important, notamment chez les jeunes, parce que les jeunes, ils ont une vie sociale très importante, ils ont des réseaux sociaux importants, ils ont l'habitude de sortir, de se voir en groupe. Et donc pendant toute la phase de confinement, ils ont l'impression ils ont réellement fait un sacrifice. On l'a tous fait, mais peut-être eux ont la sensation de l'avoir fait encore plus que nous. Et donc si on adopte une vision dynamique des comportements moraux, on peut lire le relâchement actuel qui est plus marqué chez les jeunes, comme un effet de balance par rapport à tout l'effort, tout le sacrifice qu'ils ont fait pendant la phase de confinement. Et donc là, ils se donnent un peu le droit de... c'est la licence morale, quoi. On a le droit de se relâcher un peu parce qu'on a beaucoup contribué à l'effort collectif.
aujourd'hui, comment faire en sorte, Marie-Claire Villevalgue, que notre homo covidus soit un être plus moral, moins égoïste que l'homo economicus? La crise, c'est souvent un moment privilégié pour qu'il y ait lieu des changements. Il faut espérer qu'ils aient lieu dans le bon sens. Après tout, comme l'écrivait Jean Tirole dans une tribune il y a 2 ans, l'homo economicus a vécu.
En tout cas, l'homo economicus vit avec l'homo moralis ou l'homo reciprocans. Donc, il vit avec d'autres espèces. Et donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les épreuves par lesquelles on passe actuellement mettent beaucoup plus en avant cette nouvelle vision de l'être humain et surtout notre prise de conscience de nos interdépendances sociales, du besoin des autres et de ce que les autres nous apportent, et donc de la nécessité de les protéger par nos comportements individuels.
Est-ce que toutes ces stratégies dont on parlait permettent, qui consistent effectivement à essayer de préserver une image de soi positive tout en continuant à suivre ses désirs égoïstes, est-ce que ces stratégies sont soutenues par une certaine incertitude aussi sur les normes morales dans la société ?
Oui, mais c'est pour ça que le discours public est très très important, parce qu'il joue un rôle dans l'harmonisation, dans la coordination de nos croyances et de ce que le collectif attend de chacun de nous. Donc le discours public est très important, et donc ce discours public, il doit être simple, il doit être rassurant et il doit être collectif et insister sur les interdépendances.
Merci beaucoup, Marie-Claire Villevalgue, d'avoir été avec nous à distance tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage qui est paru en 2016 aux presses de Sciences Po, L'économie comportementale du marché du travail. Un grand merci.
Merci à vous.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho avec Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Semaine d'investiture pour les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden. L'heure des bilans et des programmes économiques, mais les économistes eux-mêmes se montrent plutôt timides dans le débat.
Eh oui, si les républicains mettent les petits mots dans les grands pour expliquer, comme Eric Trump mardi, que l'actuel président avait fait des États-Unis la plus grande économie jamais vue, eh bien Donald Trump a sans doute plongé les économistes dans un grand désarroi et peu se risque à faire des prédictions. Non seulement le contexte est évidemment différent de 2016, mais ceux qui s'étaient le plus exprimés alors ne se sont pas non plus avérés les plus fiables. Ainsi, l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers prévoyait une récession en 18 mois et Paul Krugman, le prix Nobel, se mord encore les doigts d'avoir affirmé à l'époque « Si Trump est élu, l'économie américaine va s'écrouler et les marchés financiers ne vont jamais s'en remettre ». Alors la chaîne CNBC, elle, présente pourtant une longue séquence critique, mais nuancée d'analystes des plus influents, des proches des démocrates comme Krugman, Stiglitz, Summers, mais aussi de Wall Street comme Mohamed El-Erian d'Allianz ou Jim O'Neill de chez Goldman Sachs. Le plus virulent est sans doute Jeffrey Sachs de l'Université Columbia.
Il nous a laissé avec une pandémie qui a peut-être tué des centaines de milliers d'Américains, une situation de grande récession, une dette publique complètement hors de contrôle. Les plus grandes inégalités et la société la plus polarisée de notre histoire. À l'exception de James Buchanan, qui a conduit à la guerre civile, je pense que c'est le pire président de l'histoire.
Donald Trump n'a pour l'instant pas présenté son programme économique, mais sa politique a déjà brouillé les lignes idéologiques.
Et notamment à cause du protectionnisme et du déficit budgétaire qu'il a creusé, ce qui fait dire à Arnaud Leparmentier dans Le Monde que Trump a enterré le libéralisme de l'époque Reagan. Un signe en début d'année, même Paul Krugman, qui a beaucoup de doigts à mordre, apparemment salué en Donald Trump l'homme qui avait su rompre avec l'orthodoxie budgétaire. Le crédit du président auprès des financiers de Wall Street, que le New York Times qualifie de conseils occultes s'effrite aussi peut-être. Ainsi, même le PDG de Blackstone déclarait que son style de négociation internationale était, je cite, « difficile à saisir ». Alors, y a-t-il un vrai embarras des économistes ou le reflet d'une absence d'orientation claire ?
La question se pose aussi avec Joe Biden, démocrate centriste, dont le programme économique a été gauchisé.
Oui, gauchisé et même sanderisé, hein, du nom de son concurrent vaincu Bernie Sanders. En voici le résultat, le 9 juillet, dans la bouche de Joe Biden.
Si j'ai la chance d'être élu président, je porterai toute mon attention sur les familles des travailleurs, les familles de la classe moyenne, d'où je suis moi-même issu, ici à Scranton, et pas la classe des riches investisseurs. Contrairement aux familles des travailleurs, ils n'ont pas besoin de moi. Et donc voici peut-être ce qui devrait être mon principe. Nous devons récompenser le travail autant que la richesse, alors qu'actuellement, nous récompensons la richesse excessive.
D'où un programme économique Build Back Better ou Build Back Better, clairement social, une augmentation des dépenses fédérales, des impôts et du salaire minimum, une extension de l'assurance sociale. Certaines propositions sont aussi directement reprises de Bernie Sanders, ce qui fait que Trump l'accuse d'être, je cite, la marionnette de la gauche radicale. Pourtant, écrit le Washington Post, Biden, pour ne pas perdre les démocrates classiques, se décentre à gauche tout en restant perçu comme modéré, en s'associant par exemple à Kamala Harris, proche, dit-on, de la tech et de la Silicon Valley.
C'est ce qui explique, Xavier, le mystère de ces conseillers économiques, ou plutôt de l'absence de conseillers déclarés ?
Oui, là, c'est un vrai secret, hein, dit même le New York Times, puisqu'à la différence de Sanders, conseillé par Gabriel Zucman ou d'Elizabeth Warren, inspiré des travaux d'Emmanuel XVI, ceux qui soutiennent vraiment Joe Biden ne prennent pas position. Le nom de conseil économique, poursuit le journal, n'est d'ailleurs même pas employé par son équipe, et en fait, tout se déroule en coulisses, et ce secret inavouable. Le voici, c'est un mélange à trois ingrédients entre des économistes libéraux, des anciens d'Obama et d'Hillary Clinton et des dizaines d'économistes de gauche plus radicales, un véritable brain trust en somme, tenu sous blackout radio, mail et de réseaux sociaux par un document de trois pages qui stipule « ne parlez pas à la presse ». Bloomberg a pu confirmer quelques noms, dont beaucoup d'anciens conseillers du temps où Biden était vice-président. Parmi eux, on note Jared Bernstein, favorable aux salariés, ou Heather Boucher, spécialiste de la croissance durable et ancienne conseillère d'Hillary Clinton en 2016.
Et finalement, le soutien de Joe Biden le plus connu est aussi l'un des plus controversés.
Et oui, c'est encore l'économiste Lawrence Summers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton et conseiller de Barack Obama, largement critiqué pour ses décisions d'alors, pas franchement des plus sociales. Il a cependant décliné cet été un poste de conseiller économique officiel dans la campagne. Coïncidence, en 1988, Lawrence Summers avait aussi conseillé le candidat démocrate malheureux Michael Dukakis, malheureux car il s'était ridiculisé en paradant sur un char pour effacer son image pacifiste. Alors aujourd'hui, la gauche des démocrates appelle l'actuel candidat Biden à, je cite, montrer une nouvelle génération d'économistes et de penseurs. Mais si Joe Biden exhibe aussi son arsenal d'économistes radicaux, ne risque-t-il pas le même sort ?
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve mardi pour un nouveau journal de l'écho. On se quitte avec le groupe Tame Impala et leur nouveau titre « Is it true ?». Demain, l'argent magique existe-t-il ? Deux économistes viendront en débattre autour de cette table, Jean-Marc Daniel et Laurent Cialom. C'est le débat du vendredi, une nouvelle formule que vous pourrez découvrir demain à 14h. En fin d'émission, demain également, on inaugure un nouveau rendez-vous, « Racontez-moi l'écho », qui se propose de croiser l'économie et la fiction. Frédéric Schill nous emmènera à la découverte de l'Amérique rurale de Faulkner, si bien dépeinte dans son roman « Lumière doute. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr ou en podcast et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.